Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. Réalisée par Clotilde Pivin. Préparée par Marie Dalquier. Prise de son, Guillaume Ledu. Aujourd'hui, nous parlerons de thérapie et croissance spirituelle avec le père Philippe Dautet.
Bonjour Frédéric Lenoir, bonjour Philippe Dautet.
Bonjour.
Alors, vous êtes prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie. Vous dirigez le centre Sainte-Croix en Dordogne. Vous proposez avec votre épouse des retraites et des sessions sur la tradition philokalique des pères du désert en Égypte, ce qui ne veut pas dire que vous êtes tourné sur le passé, loin de là, c'est ce que nous allons voir. Et vous venez de publier « Si tu veux entrer dans la vie, thérapie et croissance spirituelle » aux éditions Nouvelle Cité. Dans cet ouvrage, vous résumez cette expérience spirituelle et thérapeutique que vous avez menée depuis 30 ans, que vous continuez à mener depuis 30 ans au centre Sainte-Croix, et vous expliquer en réalité comment vous liez les deux, l'expérience spirituelle et l'expérience thérapeutique.
Bonjour Lélie, bonjour Père Philippe.
Bonjour.
Effectivement, je vous connais depuis assez longtemps, puisque j'avais eu l'occasion de venir il y a une quinzaine d'années au centre Sainte-Croix pour dialoguer avec Annick de Souzenel. C'est à cette occasion que nous avons fait connaissance, et j'aimerais que vous nous disiez un petit mot déjà avant de partir sur le thème de la guérison, qui est le thème de votre dernier livre, un petit mot de ce centre, parce que je crois qu'un certain nombre d'auditeurs peuvent être intéressés. C'est un centre assez unique dans lequel il y a à la fois un travail justement thérapeutique et spirituel enraciné dans un christianisme de tradition orthodoxe. Donc une petite présentation du centre, de ce que vous y faites.
Voilà, donc ce centre existe depuis 30 ans et nous sommes sur un axe anthropologique. Ce qui nous intéresse, c'est l'être humain avant tout, parce que c'est à partir de l'être humain que tout s'ouvre, et d'abord le relationnel avec l'autre, avec le monde, mais aussi avec la transcendance. Ensuite, nous proposons effectivement des sessions d'accompagnement thérapeutique, mais toujours dans une perspective spirituelle. Donc ça veut dire que nous essayons d'articuler la dimension thérapeutique, qui est le traitement de sa propre histoire et de l'histoire des personnes, avec ce qu'elles vont en faire dans un devenir et comment elles peuvent trouver un épanouissement personnel à partir même de la connaissance d'elles-mêmes, qu'elles peuvent contacter par le fait de visiter leur propre histoire. Donc, effectivement, nous traitons ce que j'ai exprimé dans ce livre ici, c'est-à-dire l'articulation entre la dimension thérapeutique et la dimension initiatique, la dimension thérapeutique et la dimension de la croissance spirituelle. Et puis, d'autre part aussi, nous avons des intervenants depuis très longtemps, comme Annick de Souzenel, sur l'anthropologie judéo-chrétienne, parce que je trouve qu'elle donne des éléments tout à fait essentiels aujourd'hui. Ensuite, Bertrand Vergely. Et puis aussi, nous sommes en dialogue avec tous les grands mouvements de ce monde et de cette réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire dialogue avec les sciences, donc les sciences astrophysiques, physique quantique, etc., dialogue avec l'économie, dialogue spiritualité santé, spiritualité éducation, spiritualité écologie, pour être en interférence avec les réalités d'aujourd'hui, parce que c'est dans l'aujourd'hui que tout se joue.
Alors, pour tous ceux que ça intéresse, donc je renvoie au site internet www.centresaintecroix.net. Voilà, on retrouvera ça, ces informations sur internet. Bon, donc, autrement dit, ça s'adresse essentiellement à des gens qui ont la foi. C'est-à-dire que, vu que la dimension spirituelle est chrétienne, c'est surtout des gens qui sont croyants. Et j'allais dire, ça, c'est la même chose pour votre livre. Ce livre, donc, Si tu veux entrer dans la vie, thérapie croissance spirituelle, qui vient de sortir chez Nouvelle Cité. Je le dis clairement, parce que des gens qui n'auraient pas la foi chrétienne seraient un peu déstabilisés. On est devant vraiment un regard qui s'adresse aux croyants avant tout.
Oui, mais en même temps, nous accueillons certainement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, des gens aussi qui ont eu une grande expérience dans le bouddhisme, ou dans l'hindouisme, mais qui ont au fond d'eux-mêmes une culture chrétienne et qui sont réinterrogés par une tradition de l'expérience. C'est-à-dire ils sont partis ailleurs parce que ils voyaient la tradition chrétienne comme un moralisme ou un juridisme et que ça, ils ne pouvaient pas du tout adhérer, mais retrouvant pour nous avec les racines de la chrétienté une tradition de l'expérience, alors nous voyons beaucoup de personnes, des moines même, hein, bouddhistes qui viennent chez nous, et nous avons un fameux voisin qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est à 7 km de chez nous,
oui,
et nous avons des moines et des moniales avec qui je suis très en relation, ainsi que des moines et moniales aussi bouddhistes tibétains, par exemple, qui viennent parce que ça les intéresse de voir quel est l'angle d'approche mystique chrétien. Et donc, de ce point de vue, nous accueillons des chrétiens, mais pas que, et des personnes auxquelles ce langage peut parler.
Et c'est vrai que c'est un des caractères de l'orthodoxie, d'avoir su conserver, je dirais, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le catholicisme, d'avoir su conserver une tradition spirituelle très vivante, voilà. Initiatique, on pourrait dire.
Tout à fait.
Qui tiennent compte de l'homme dans toutes ses dimensions. Et il y a également, donc, lorsque vous proposez des sessions, etc., il y a toujours aussi une dimension religieuse qui est présente à travers des offices. Les gens peuvent participer ou non à cette vie spirituelle de votre petite communauté.
Voilà, exactement. Donc, nous avons une très belle église fresquée avec 130 mètres carrés de fresques.
Ouais,
donc, là, il y a une proposition de participer aux offices le matin et le soir, mais c'est tout à fait libre. Et en général, les gens viennent en premier lieu par curiosité, et puis ils peuvent s'associer à notre prière s'ils le veulent.
Alors, pour en venir au thème d'aujourd'hui, pour parler de thérapie et croissance spirituelle, je voudrais que vous me disiez un petit mot déjà du fondement anthropologique sur lequel vous appuyez. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que l'être humain pour vous ? Puisque la guérison va partir d'une certaine conception de l'être humain.
Oui, je crois que la conception de l'être humain est toujours en présupposé chez tout thérapeute. Et donc, il est plus clair et plus honnête d'exprimer son anthropologie pour situer sa vision de l'être humain. Donc, moi je crois, et évidemment, je travaille avec Annick de Sozonel depuis 30 ans, donc j'aime revenir aux racines hébraïques, parce qu'il y a ici une difficulté, c'est que la tradition chrétienne qui a un enracinement juif, donc sémite, de tradition sémite, a été acculturée dans le monde grec. Et donc, par là, l'anthropologie a transité d'une anthropologie sémite à une anthropologie grecque, ou a été retraduite. Et il y a une problématique, c'est que la vision n'est pas exactement la même. Là où l'anthropologie juive est une anthropologie unitive, qui ne voit pas un corps ou une âme ou un esprit, mais qui voit quelqu'un, et donc qui a une conscience de l'unité de la personne, à tel point qu'on pourrait dire qu'un juif n'a jamais vu un corps. On pourrait se dire, mais comment, moi j'ai vu ce qu'est un corps. Non, un juif n'a jamais vu un corps, parce qu'on ne voit jamais un corps. On voit quelqu'un qui est corps et qui s'exprime dans son corps, qui est âme et qui est esprit. Donc, il y a cette conscience de l'unité de la personne qui certainement peut s'exprimer à travers la dimension somatique, la dimension psychique et la dimension spirituelle. Et dans la tradition donc grecque, dans l'héritage platonicien, il y a un dualisme où on considère le corps comme le tombeau de l'âme, ou en tout cas comme une prison de laquelle il faut sortir, et l'âme comme étant immortelle, bonne, etc. Et donc, ce n'est pas la vision des pères de l'Église et ce n'est pas la base anthropologique qui est cohérente avec la Bible. Donc, je voudrais revenir à cette anthropologie. Et alors, maintenant, il faut préciser l'anthropologie chrétienne de ce point de vue sémite. Pour l'être sémite, l'être humain est bassar et nefesh. C'est-à-dire bassar qu'on a traduit par chair, mais peut-être quand on entend le mot chair, on entend Saint Paul et toute une chair dévoyée. Donc ce n'est pas de ça dont on parle. On parle ici de cette dimension informationnelle de la chair qu'on ne doit pas confondre avec la viande. Excusez-moi du langage, mais malheureusement c'est ça qu'on voit. Voilà, et donc qui est chair pénétrée de souffle, et les deux sont indissociables. Le souffle donne vitalité à la chair, et les deux sont donc indissociables, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un être humain indivise. Et au cœur de cette réalité bassar-nefesh, il y a une capacité de conscience, c'est-à-dire de poser un regard sur les mouvements de l'âme et sur les mouvements du corps. Et cette capacité de regard, elle est exprimée dans le nous grec, qui dit l'œil du cœur, et donc la possibilité de prendre conscience des états d'âme et de prendre conscience des mouvements intérieurs. Et donc, quand nous allons parler de l'esprit, nous allons parler de cette capacité de conscience dans l'être humain, qui est une capacité aussi de responsabilité, mais pas que, parce qu'il y a un autre mot qui est utilisé pour parler de l'esprit, qui est le pneuma. En ce sens, être spirituel, c'est entrer pleinement dans la vie, d'où le titre de mon livre. Être spirituel, c'est être pneumatisé, c'est-à-dire insufflé, c'est-à-dire dynamisé, vivifié, et donc entraîné vers un plus de vie. Et l'être humain est un être en devenir qui est appelé à devenir pleinement vivant, donc pneumatisé. Et dans ce sens, nous sommes tous concernés, religieux, non religieux, croyant, non croyant. Chaque être humain est concerné par la spiritualité, par le fait qu'il est un être conscient, et chaque être humain est appelé à aller vers plus de vie. Et donc, c'est l'ouverture sur la plénitude de vie qu'est la spiritualité. Si jamais la spiritualité a indiqué quelque chose de contraire, alors elle est contraire à sa propre étymologie.
Alors, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que, bon, on est tous plus ou moins blessés. Il y a toute l'histoire, hein, depuis l'embryon jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, est faite aussi de rencontres négatives, de blessures, d'incompréhensions, de déviations. Vous expliquez les distinctions entre ce qu'on appelle la faute, le péché, le mal, etc. Et vous montrez que la guérison passe essentiellement par une dynamique relationnelle.
Voilà. Si je regarde les évangiles, je ne vois nulle part que le Christ soit venu instituer une nouvelle religion. Ce que je vois, d'une manière claire, c'est que le Christ entre en relation d'une manière singulière avec la personne qui est en face de lui, qui est un disciple, qu'il appelle, ou bien un lépreux, ou bien un infirme, ou bien un sourd, ou bien un muet.
Une prostituée, femme adultère.
Exactement. Il investit totalement son être dans la relation et il reconnaît pleinement la personne qui est en face de lui et déjà la guérison peut, commencer à fleurir parce que la personne se sent reconnue, accueillie, acceptée. Et donc c'est la puissance de la relation qui est certainement un facteur de guérison essentiel. Et je voudrais dire ici, parce qu'aujourd'hui, les sciences s'intéressent à l'interrelation. Vous savez, on est entré dans l'objectivation du monde, la chosification, puis la marchandisation du monde. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de la vie. Parce que la vie, elle est interrelation. Elle est ce qui circule entre les êtres ou circule entre les choses. Et donc, on met ici en valeur l'interrelation. Eh bien, de ce point de vue, c'est ce que j'indique dans le livre, quand on voit, du point de vue scientifique, qu'on peut mettre deux éléments en présence, qui sont par exemple l'hydrogène et l'oxygène, eh bien, si on les combine de telle manière avec deux hydrogènes et un oxygène, ça fait émerger l'eau, qui est facteur de vie, et émerger des qualités ou émerger des ressources qui n'existaient pas ni dans H2 ni dans O2. Et dans l'interrelation entre deux personnes humaines, on fait émerger ce qui est au-delà et en même temps intime à chacun et révéler des qualités qui ne s'exprimaient pas ni dans l'un ni dans l'autre. Donc dans la relation, il y a plus que l'un et plus que l'autre. C'est ça la dimension de la vie et de la vitalisation et de la pneumatisation.
Oui, mais alors quand vous parlez de thérapie, à qui ça s'adresse vraiment? C'est-à-dire de quoi sommes-nous malades? Quelle est la maladie? Quelle est la maladie plus particulièrement que vous visez par ce terme de guérison ou de thérapie? Parce que est-ce que ça veut dire que ça concerne tout le monde? Vous dites l'interrelation, etc. Oui, mais ça concerne des gens qui seraient intéressés,
oui,
qui voudraient, qui sont déjà plus malades d'une certaine façon, puisqu'ils ont fait une démarche vers l'autre ou vers une amélioration, vers la vie, comme vous dites, etc. Mais voilà, je voudrais savoir d'abord quelle est la maladie qu'il faut traiter et est-ce qu'on peut traiter des gens qui sont vraiment malades, qui n'ont même pas fait la première démarche de se dire peut-être que finalement il faut que j'entre dans une conscience ou que je sorte d'une situation. Vous voyez là.
Oui, tout à fait, j'entends la question et il y a plusieurs degrés. Il y a des personnes qui vont se mettre en mouvement parce qu'ils sont en souffrance, dans un malaise intérieur, parce qu'ils vont reconnaître ce malaise. C'est clair qu'il n'y a pas de mouvement thérapeutique sans le fait d'une demande et sans le fait d'un désir. Donc sans le fait de la reconnaissance d'une difficulté, d'un malaise et d'une souffrance intérieure. Ça, c'est un premier degré. Il y a un deuxième degré où pour certaines personnes, la vie circule. Ils sont insérés socialement, professionnellement, etc. Mais ils viennent aussi dans les chemins de guérison parce qu'ils ont besoin de trouver du sens et d'approfondir la dynamique relationnelle avec eux-mêmes et avec les autres et de purifier, je dirais, tous les mécanismes de défense et les stratégies de protection qu'ils ont mis en place à leur insu. Et donc, beaucoup de personnes ont fait 10-15 ans de chemin thérapeutique et viennent à Sainte-Croix parce qu'ils veulent prolonger leur cursus ou je dirais plutôt tout le travail thérapeutique qu'ils ont accompli par l'épanouissement dans une dimension spirituelle, c'est-à-dire pour aller vers plus de vie.
C'est ce que j'allais dire aussi, juste une petite incise, c'est que la relation, c'est à la fois la relation avec les autres, mais c'est aussi la relation avec le Christ, avec Dieu, avec la transcendance, pour ceux qui ont la foi,
qui peut
être source de guérison.
Exactement.
Dans les deux dimensions.
C'est la relation avec l'être, c'est-à-dire l'ouverture à l'intime de soi-même, parce que je crois qu'il faut dire ici une chose, c'est que aller vers Dieu ou aller vers soi, c'est exactement la même chose, ce n'est pas opposé, ce n'est pas aller vers Dieu au déni de soi-même, ou comme selon la formule qu'on a entendue en Occident ici, en s'oubliant soi-même. Non, aller vers Dieu, c'est aller vers soi, parce que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme le disait saint Augustin. Et donc, c'est ce prolongement-là, c'est guérir d'une schise, guérir d'une rupture avec l'intime de soi-même et la transcendance qui s'exprime en soi.
Parce que je vous pose la question, parce que c'est vrai que vous donnez très souvent le modèle évangélique.
Oui.
Et le Christ est évidemment un thérapeute dans les évangiles, dans tous les sens du terme, que ce soit vraiment physiquement, les lépreux, la femme et Maurice, les infirmes, etc., voire même Lazare. La plus grande maladie étant la mort, évidemment. Et en même temps, c'est le thérapeute de l'âme. Donc la question, c'est, est-ce que vous pensez que la démarche, elle peut commencer par un désir de simplement de guérir de quelque chose de purement physique ou psychique? Voilà, quelqu'un qui est dans un mal-être ou quelqu'un qui est infirme. Est-ce que ça s'adresse plus au corps? Ou est-ce que c'est vraiment, vous entendez thérapie, dans un sens hautement spirituel?
On voit bien dans les évangiles, parce que vous êtes revenu à cette référence-là, que le Christ passe par la guérison des corps.
Oui, bien
donc,
sûr.
Ça commence par là. Et donc, il y a le signe des guérisons pour que ça soit signifiant pour tous ceux qui sont autour. Donc, effectivement, ça commence par la guérison des corps. Donc, ça inclut cette attention au malaise et aux somatisations. Et puis, ça continue par ce qui sous-tend la somatisation, qui est le problème et les difficultés et les malaises et peut-être même les déviations de l'âme, jusqu'à la maladie de l'esprit. Et la maladie de l'esprit, c'est de ne pas savoir accueillir pleinement la vie en soi.
Oh,
Des frères se rendirent chez Abba Antoine et lui dirent « Dis-nous une parole, comment être sauvé ?» Le vieillard leur dit « Écoutez-vous l'écriture, elle vous convient fort bien. » Ils répartirent « Mais nous voulons l'entendre de toi, père. » Alors le vieillard leur dit « L'évangile dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Ils dirent « Nous ne pouvons pas faire ça. » Le vieillard leur dit « Si vous ne pouvez pas tendre l'autre joue, supportez au moins qu'on vous frappe sur une joue. »« Ah, nous ne pouvons pas non plus. » « Si vous ne pouvez pas non plus, dit-il, ne rendez pas le mal que vous avez reçu. » Et ils dirent « Nous ne pouvons pas non plus. » Alors le vieillard dit à son disciple « Prépare-leur une petite bouillie de farine, car ils sont malades. Si vous ne pouvez pas ceci et vous ne voulez pas cela, que puis-je faire pour vous? Vous avez besoin de prière. »
Alors vous citez beaucoup, Père Philippe, les pères du désert. Alors en quoi est-ce que les pères du désert sont actuels?
Les pères du désert sont actuels au sens où ils ont voulu revenir à l'originel. Et je crois que dans le contexte actuel, il nous faut revenir à l'originel. Quand je dis originel, je ne dis pas le commencement, je ne dis pas un avant dans le temps, je dis un originel dans la profondeur de soi-même. Il y a en nous une dimension originelle, et dans cette dimension originelle, nous sommes capables de beauté, capables de joie, capables de paix, capables d'amour, donc capables de déclore les plus grandes qualités humaines. Et donc, c'est ça que nous disent les Pères du Désert, cette tradition philokalique. Philokalie veut dire amour de la beauté. Et quand on dit amour de la beauté, on parle de l'amour de la beauté originelle, qui est évidemment, pour les Pères du Désert, identifiée à l'image de Dieu dans l'être humain. Et donc, ça veut dire cette capacité de noblesse qui habite chaque être humain. Et donc, je vais développer après toute une thérapie en disant qu'il faut prendre soin de cette beauté originelle, prendre soin de ce qui va bien en nous, de ce qui est en bonne santé en nous, pour aller vers le traitement de ce qui dysfonctionne en nous.
Alors ça, c'est un point très important qui rejoint ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive. Voilà. Alors que Freud insistait beaucoup, évidemment, sur le traitement de ce qui va mal. Et depuis 30 ans, il y a tout un courant qui s'est développé aux États-Unis, qui touche aujourd'hui le monde entier, qui insiste aussi sur, finalement, prendre conscience de toutes nos capacités, nos potentialités, nos qualités, tout ce qui fonctionne bien, pour le développer, ce qui est à la fois thérapeutique et préventif. Donc vous proposez la même chose, mais en s'inscrivant toujours dans cette dimension spirituelle.
Voilà, je voudrais faire réémerger cette très belle tradition qui n'a pas forcément été bien comprise, ou bien à travers quelques clichés, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent s'inspirer des Pères du Désert. Mais avant tout, il s'agit d'entrer dans cet esprit philokalique, effectivement, qui est relayé aujourd'hui par Jung, mais aussi par Relomé, par Carl Rogers, etc. Et donc, on a bien saisi que, en fait, ce n'est pas en voulant absolument traiter le mal qu'on s'en sort, mais c'est en nourrissant ce qui va bien en nous. Donc, je trouve que c'est important parce que nous allons vers l'émergence de la lumière au lieu de vouloir chasser les ténèbres. Mais quelle est la meilleure façon de chasser les ténèbres si ce n'est de faire resplendir la lumière? Donc, il y a effectivement un axe thérapeutique ici que je trouve essentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que la personne trouve une source, un ressourcement intérieur pour qu'elle-même, elle puisse participer à sa propre thérapie.
Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve que vous avez de très belles pages sur la question de la culpabilité. C'est-à-dire, vous distinguez fort bien, vous montrez à quel point la culpabilité est quelque chose qui nous retient dans cette démarche. Même s'il faut être conscient, bien sûr, de ses fautes. Vous ne faites pas l'impasse du tout sur le fait que nous commettons des fautes et des péchés, nous faisons des choses que nous ne devons pas faire. Mais néanmoins, vous faites une très, très importante, à mon sens, distinction avec le sentiment, la conscience de ce qu'on fait et la question de la culpabilité. Je crois que c'est lié à cette psychologie positive.
Donc, il y a ce que je mets en évidence, c'est que à partir d'une même réalité, on peut enclencher un dynamisme positif de construction intérieure ou un mécanisme d'autodestruction. On peut se faire mal avec le mal subi, on a été blessé, on n'y est pour rien, on est tout à fait, et puis surtout un enfant, tout à fait victime, mais on peut entrer dans une culpabilité morbide et s'autodétruire avec cette culpabilité, et peut-être cette culpabilité va plus nous détruire que la blessure initiale. Ça, c'est le drame, et c'est le grand drame de l'être humain, mais aussi on peut en faire une occasion de croissance spirituelle. Et c'est ça tout le thème du livre. Et donc, il y a à distinguer entre la conscience de culpabilité, c'est-à-dire repérer que j'ai dit une parole ou j'ai fait quelque chose qui blesse l'autre et qui n'est pas juste. Et donc, cette conscience, elle est positive. mais il y a aussi le sentiment de culpabilité où je vais me remordre, donc je vais mâchonner en permanence et être dans une culpabilité, c'est-à-dire être dans une autocondamnation parce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je me le reproche et je ne cesse de m'embourber dans ce processus mortifère. Et j'ose dire ici que la culpabilité, elle est mortifère et carrément démoniaque.
Mais Lely parlait aussi du mot péché, qui est un mot extrêmement chargé, hein, et qui peut évoquer aussi des choses très très négatives et beaucoup de déviations, je dirais, dans la prédication chrétienne au cours de 2000 ans, dans lequel on a évidemment beaucoup insisté sur la notion de péché, justement peut-être pour amener les gens à une forme de culpabilité, ce qui assoit aussi un pouvoir d'une institution. Donc là, j'aimerais que vous parliez du péché, parce que la manière dont vous en parlez dans le livre n'a évidemment à peu près rien à voir avec cette connotation extrêmement moralisante.
Oui, je crois que c'est toujours important, et ça c'est aussi revenir à l'étymologie originelle. Donc d'une manière originelle, en hébreu, le mot « rata », en grec, le mot « hamartia », qui est traduit par le péché, veut dire « mal visé », être mal orienté. Donc, le péché, ce n'est pas quelque chose dont il faut se culpabiliser, mais c'est une alarme, ça veut dire qu'on est mal orienté. Et donc, mal orienté, et je trouve que Martin Buber dit très bien ici ce que ça veut dire, et notamment par rapport à la culpabilité. Et il dit, au lieu de te culpabiliser et de dépenser une énergie intérieure à te juger, tu ferais mieux d'aller aider les autres et par là de sortir de toi, de sortir de tout le tempérament mortifère dans lequel tu t'enfonces pour aller donner le meilleur de toi-même aux autres. Voilà. Et donc, le péché n'est pas quelque chose dont il faut, sur lequel il faut ruminer, mais dont il faut sortir. C'est-à-dire qu'il s'agit de restituer une juste orientation. Et la juste orientation, c'est d'aller vers la vie au lieu d'aller vers la mort.
Ça me fait vraiment penser à ce que vous dites à Spinoza, qui dans l'éthique, alors il ne parle pas du tout du péché, parce qu'il parle dans une conception religieuse, mais dans sa conception philosophique, il parle du bon et du mauvais. Et il dit au fond ce qui nous fait du mal. C'est lorsqu'on oriente mal notre désir. Et donc, aller vers le bon, c'est réorienter son désir et savoir trouver des désirs meilleurs qui vont concurrencer ces désirs négatifs pour aller vers la joie, c'est-à-dire vers ce qui nous permet de nous accomplir.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, il y a en nous le désir. Et donc là, je crois qu'il s'agit d'insister sur cette question parce que le désir a été l'objet d'une suspicion. Je crois qu'il s'agit de nourrir le désir et même d'épanouir le désir, mais qui est un désir d'être, qui est un désir de plénitude, qui est un désir de transcendance, et que le péché s'applique exactement là. Le problème n'est pas dans le désir, il est dans l'orientation du désir, c'est-à-dire un désir qui va s'orienter vers des finalités qui sont soit très réductrices, soit mortifères.
Oui, qui nous rabaissent,
voilà.
Ou qui nous détruisent.
Et donc, le désir est bon, à condition qu'il soit orienté vers sa juste destination, c'est-à-dire vers l'être et non pas vers l'avoir, comme nous le voyons dans le monde actuel.
Oui, et d'ailleurs, vous avez effectivement de très belles pages sur le désir que vous associez d'ailleurs à la question de la prière, c'est-à-dire vous montrez comment finalement le suprême désir, qui est un élan vers la transcendance, se manifeste dans la prière, même si dans un premier temps la prière est un travail un peu difficile, mais ça entretient en même temps cet élan de vie qu'il y a en soi. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous développez dans le livre d'ailleurs, cette idée de pourquoi la prière est si importante? Parce que en tant qu'elle nourrit notre désir de vie,
parce qu'elle est le vecteur de l'aspiration à être. Avant même qu'on ait dit un seul mot de la prière, l'essentiel, c'est de laisser jaillir la vie. Et la vie, quand elle jaillit et qu'on se laisse entraîner par ce mouvement de vie, elle devient louange, elle devient vénération, elle devient prière. Et donc, prier avec des mots sans être enraciné dans cet élan de vie, ce n'est pas la prière. C'est du rabâchage. Le Christ dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Et donc, avant tout, et ça j'exprime de manière très forte, il s'agit de retrouver la vie. Si on n'est pas enraciné dans le mouvement de la vie, qui évidemment pour les chrétiens et pour les croyants en général, vient de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui s'exprime dans ce mouvement de vie, si on n'est pas enraciné là, alors ça veut dire quoi la prière ?
pour vous, elle est thérapeutique. Elle a une fonction thérapeutique puisqu'elle développe aussi la vigilance au quotidien. C'est pas juste un moment, la prière.
Non.
C'est pas on s'assoit, on fait une prière.
Non.
C'est vraiment un état de vigilance permanente à ce que nous sommes, ce qu'est le monde et ce qu'est l'invisible.
La prière, c'est et un moment de ressourcement, une demi-heure sur un petit banc ou une demi-heure pour un temps de prière, et le fait de déployer ce dynamisme de vie dans la journée. Et donc, la vigilance et la prière sont complètement complémentaires. C'est ce que rappelle le Christ tout le temps, veiller et prier.
Alors, je vous ai apporté un extrait très peu connu des frères Karamazov et Dostoïevski qui reprend un peu cette idée, qui la relie à la question de l'amour dont j'espère nous allons parler après. C'est en fait presque à la fin de l'enseignement, des entretiens avec le Staret Zosim, justement, qui est ce moine orthodoxe et le maître spirituel d'Alyosha Karamazov, le héros parmi les trois frères, en fait, le héros spirituel. Voici donc ce qu'il dit. C'est pour la collectivité que tu travailles. Pour l'avenir que tu agis. Ne cherche jamais de récompense, car tu en as déjà une grande sur cette terre, ta joie spirituelle, que seul le juste a en partage. Ne crains ni les grands ni les puissants, mais sois sage et toujours digne. Observe la mesure, connais les termes, instruis-toi à ce sujet. Retiré dans la solitude, prie. Prosterne-toi avec amour et baise la terre. Aime inlassablement. Insatiablement, tous et tout, recherche cette extase et cette exaltation. Arrose la terre de larmes d'allégresse, aime ces larmes. Ne rougis pas de cette extase, chéris-la, car c'est un grand don de Dieu accordé seulement aux élus.
La prière, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la prière.
Et les élus, c'est tout le monde.
Et les élus, c'est tout le monde. Tous ceux qui le veulent. Tous ceux qui le veulent. Parce que quand on dit qu'il y a beaucoup d'appelés ou tous sont appelés, et peu d'élus, ça ne signifie pas que Dieu fait le tri. Ça signifie ici que l'appel est adressé à tous, mais tous ne répondent pas à l'appel. Il y a le mouvement de notre liberté.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous recevons aujourd'hui le père Philippe Dautet pour parler de thérapie et croissance spirituelle à l'occasion de la publication de son dernier livre, Si tu veux entrer dans la vie, aux éditions Nouvelle Cité, un livre qui vient de sortir. Pour poursuivre cette conversation, il y a un élément dont vous parlez dans votre livre qui est très intéressant, je vais essayer de le dire. Vous parlez du processus de désidentification. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
La question, c'est de distinguer la personne des paroles et des actes. De ne pas réduire la personne à d'abord ce qu'on en voit, même je dirais à son CV, ou à ce qu'on nous a dit de cette personne. Parce qu'à ce moment-là, ce regard réducteur enferme la personne dans un a priori et dans un aspect d'elle-même. Et donc, il s'agit de restituer l'entièreté et l'intégrité de cette personne en ne s'arrêtant pas à ce qu'on dit ou à ce qu'on peut voir d'elle, mais en ne regardant plus profond. Et donc, désidentification, ça veut dire ne pas réduire la personne à ses paroles ou à ses actes. C'est valable pour soi-même, parce qu'autrement, quand on le fait, on entre dans la culpabilité. La culpabilité, c'est bien se réduire soi-même à un acte que j'ai fait, que j'aurais pas dû faire, et par là, on rentre dans un processus mortifère. Et donc, la désidentification, c'est pour entrer dans un processus de vie. Ça ouvre après sur une autre dimension, c'est le fait que l'être en nous ne peut pas être réduit à ce qu'on fait vivre de l'être en nous. L'être est beaucoup plus que ce qu'on manifeste de lui. Et donc, ça veut dire aussi, c'est toute l'ouverture sur la dimension du « je suis ». Donc, désidentification, par exemple, saint Isaac le Syrien dit « ne déteste pas ton frère, mais les passions qui lui font la guerre ». C'est-à-dire, ton ennemi, c'est pas ton frère, c'est le fait qu'il est emporté par une idéologie, qu'il est emporté par des passions, par la colère, par la révolte, etc. Et il s'agit de condamner la révolte, il s'agit de condamner le mal, d'être intraitable dans la condamnation du mal et condamnation de l'offense, pour mieux restituer la personne. Mmh. Ou bien, un grand théologien orthodoxe va dire, Paul Evdokimov, le Christ sur la croix a séparé le péché du pécheur, il a condamné le premier pour sauver le pécheur. Et donc ici, il s'agit en même temps de condamner absolument les actes, et ceci est essentiel à la question du pardon. Donc, le pardon ne pourra se faire que sur la reconnaissance réciproque du mal subi, et par l'agresseur, et par l'offensé et l'agressé. Et donc, condamner les actes et les paroles pour mieux restituer la relation avec les personnes qui ne peuvent pas être réduites à ces paroles et à ces actes.
Est-ce que ce que vous dites sur la désidentification, ça peut rejoindre ce que dit Lorient par rapport au fait qu'on s'identifie à notre moi, c'est-à-dire à notre ego, et qu'on oublie le soi profond de nature divine?
Complètement.
C'est la même idée.
C'est la même idée. C'est la même idée, à savoir que si on veut atteindre le soi, atteindre l'être, il s'agit de décrisper les relations avec le moi existentiel, c'est-à-dire qui est conditionné par les réalités extérieures, comme un enfant, et chacun de nous avons été conditionnés, formatés par la culture extérieure, eh bien, c'est pas, cette culture-là peut être une entrave sur le chemin du soi et le chemin de l'être.
Alors, on va parler de la question du pardon, qui est centrale dans votre livre. D'abord, une petite question qui me trotte un peu en tête depuis l'émission qu'on a fait avec Lita Basset, qui est une théologienne protestante au début de l'été. Et il y avait toute une discussion que nous avons eue avec Lélie Anvar sur la question de la haine, puisqu'elle traduisait un certain passage des évangiles où Jésus semble dire qu'il faut haïr, je ne sais plus exactement, il faut haïr
ses parents,
sa famille, ceux qui peuvent nous empêcher de le suivre et d'aller jusqu'au bout du chemin spirituel. Et Lélie a bondi en disant mais c'est pas possible que le Christ prône la haine. Et Lita Basset disait c'est le mot grec que l'on trouve. Alors là, il y a eu effectivement même des auditeurs qui nous ont écrit en disant choquant.
C'est choquant, il y a une confusion terrible. Parce que ce mot haine, il est en grec la référence au fait de l'oiseau qui chasse les petits du nid. Mais il ne chasse pas les petits du nid pour qu'ils meurent, il chasse les petits du nid pour qu'ils vivent. C'est-à-dire
Une fois qu'ils sont arrivés à maturité.
Une fois qu'ils sont arrivés à maturité, il faut qu'ils s'envolent pour acquérir leur autonomie. Donc c'est toute la question que je pourrais reprendre les paroles évangéliques. Il est dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire, pour honorer, il s'agit de quitter. De quitter quoi? La relation fusionnelle, de dépendance. Et donc de prendre son autonomie, c'est ça l'idée. Et de prendre son autonomie, ça veut dire de mûrir, de grandir pour une juste relation. C'est-à-dire passer de la relation de fils ou fille de mes parents à une relation de personne à personne, qui est une relation constructive où je peux m'assumer pleinement, non pas comme fils de mes parents et comme fils des projections de mes parents, mais comme un être à part entière en face de mes parents. Et donc, le Christ appelle ici un mûrissement et non pas à haïr, qui évidemment est tout à fait contradictoire avec l'amour.
Donc Lélie Renvard est rassurée.
Je suis ravie même.
Alors le pardon, donc élément essentiel, parce que quand il y a blessure, bien souvent il y a quelqu'un qui peut être derrière la blessure. Oui. Et donc vous expliquez l'importance de pouvoir dépasser cette colère, ce ressentiment qu'on peut avoir. Mais expliquez-nous comment le faire, parce que c'est toute la difficulté. On se dit oui, pardonner, mais comment ?
D'abord, je voudrais dire que le pardon n'est pas psychologiquement possible. On a toutes les raisons d'en vouloir à celui qui nous a fait mal. Donc ce n'est pas psychologiquement. Ça veut dire qu'il faut monter d'un cran et ouvrir sur une autre dimension. Et donc, dans mon exposé, je passe par la nécessité d'une métanoïa. C'est-à-dire, métanoïa qui a été traduit malheureusement par un mot qui est complètement galvaudé, qui est le repentir. Mais repentir, c'est une connotation un peu du mea culpa, alors que la métanoïa originelle, le mot grec, veut dire ici changer de regard, changer d'état d'esprit. Ça veut dire changer de regard sur la réalité de ce qu'on a vécu. Et donc, ce n'est possible ici le pardon évangélique. J'entends pas le pardon cliché où on se pardonne comme ça pour éviter les conflits, parce que effectivement, le pardon pourrait être un évitement, si c'est du point de vue psychologique. Il s'agit d'entrer dans une dimension ici profondément spirituelle. Ce qui veut dire réintégrer l'autre après l'offense ou après l'agression. Donc, ce qui est d'un autre teneur. Et donc, c'est un chemin vers l'unité intérieure et un chemin vers l'unité avec l'autre, de réconciliation, s'il est possible. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est qu'effectivement, il s'agit d'abord de s'accepter soi-même. Parce que comment accepter l'autre si on ne s'accepte pas soi-même? Il est bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, eh bien, la question du pardon, ça passe par la question de la désidentification, c'est-à-dire de voir que l'autre est sous l'emprise des passions qui lui font dire ou qui lui font faire des choses qu'il ne veut pas dire ou qu'il ne veut pas faire. Et donc, ça demande cette élévation de l'âme pour ensuite entrer dans un désir de retrouver la relation avec l'être et donc d'amener cet être à un changement intérieur d'une manière positive. Donc le pardon est un processus, c'est l'accomplissement du processus thérapeutique, je dirais. C'est ce qui va mener à une transformation et de moi-même d'abord, pour, si possible, une transformation de l'autre selon sa liberté, afin que tous les deux nous grandissions dans l'être.
Vous citez plusieurs fois dans votre livre un exemple, un des grands exemples de pardon dans notre époque contemporaine, c'est celui de Nelson Mandela. Et en effet, vous montrez que donc le pardon est possible, mais qu'il n'est possible que si on a reconnu pleinement et entièrement à la fois ses propres fautes et surtout que l'autre a reconnu la faute que l'on a envers soi. Et je trouve ça très beau, cet hommage que vous rendez à Nelson Mandela, parce qu'il est peut-être l'exemple vivant que tout ce que vous proposez dans ce livre est possible. Parce que parfois, on peut se demander si c'est possible d'aimer comme cela, de pardonner, d'être capable pour lui, non seulement de s'unifier lui-même, mais d'unifier une nation. Je voudrais peut-être que vous reveniez sur ce cas de Nelson Mandela, surtout en ce moment où... Oui. On sait la situation.
Comme nous atteignons la fin de l'émission, je vais quand même dire plusieurs choses ici fondamentales. Premièrement, le pardon n'est pas l'oubli.
Voilà.
Donc, Nelson Mandela n'a pas oublié le fait que c'est une injustice qu'il soit en prison pendant 27 ans. Ensuite, le pardon, il est le fait d'une transformation intérieure. Quand Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans, il a dit... Je suis devenu le capitaine de mon âme et le maître de mon destin. Il a su transformer ce temps-là, invictus, comme une possibilité d'ouvrir sur un avenir nouveau. Et donc c'est ça le pardon, c'est rompre avec les mécanismes du passé, donc des mécanismes mortifères, ce que j'appelle aussi des mécanismes de violence, c'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui n'entre pas dans un processus thérapeutique, il va, à partir du mal subi, lui-même ruminer, entrer dans un ressentiment, une haine, pour développer un désir de vengeance, puis faire mal aux autres qui vont ruminer et puis avoir un désir de vengeance. Et puis le mal se faufile à travers l'humanité de cette manière. Et là, premier point du pardon, Nelson Mandela rompt avec cela. Il n'en veut pas à ses ennemis, mais il en fait une occasion de croissance spirituelle. C'est bien le thème du livre. Et puis ensuite, il sort et vous savez très bien toute l'histoire qui s'est développée par la suite et comment il a évité le bain de sang à travers la commission Vérité et Réconciliation, avec aussi le film Invictus sur justement de ne pas écarter les Blancs et de ne pas se venger finalement, mais de dire c'est tous ensemble, on doit construire ensemble. Et donc le pardon, c'est la possibilité d'un avenir nouveau qui ne soit pas la reproduction du passé, et c'est la possibilité d'un vivre ensemble qui permettent justement le respect de chacun et la valorisation de chacun. Et Nelson Mandela a bien illustré cela.
Et on voit aussi à quel point le travail individuel est indispensable pour ensuite entrer dans un travail collectif, politique en l'occurrence, mais ça peut être aussi... Ça, vous en parlez aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Vous avez parlé de l'interrelation dans le monde. On ne peut pas changer le monde si on ne sait pas changer soi-même, et on ne peut pas se changer soi-même si on n'entre pas en relation avec le monde.
C'est tout à fait la parole de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir advenir dans le monde ». Donc ça commence par soi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau politique, c'est bien la question. C'est-à-dire on déplace les problèmes, on ne résout rien.
C'est bien le problème.
C'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on évite justement la remise en question personnelle et le fait de s'ouvrir sur une dynamique de vie. Et donc on continue des processus qui sont des processus qui vont dans l'impasse. Et donc, c'est un appel solennel aujourd'hui à ce que chacun entre dans une profondeur pour ouvrir sur la vie, sur l'autre et sur un vivre ensemble qui soit joyeux. C'est possible.
Est-ce qu'on pourrait dire que la guérison pourrait la définir comme une réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec le monde ?
Je crois, Frédéric Lenoir, vous avez tout compris.
J'essaye.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Tout à fait. Alors, je voudrais bien dire ici que le pardon est une chose, la réconciliation est autre chose. Le pardon m'appartient totalement, parce que c'est une démarche qui m'appartient dans ma liberté, mais la réconciliation dépend de la disposition de l'autre, et ça, je n'y peux rien. Donc, en fait, il s'agit de solliciter, c'est-à-dire il s'agit ici de vivre une pleine compassion et plein d'amour pour l'autre, pour lui donner les conditions favorables pour que lui-même aille vers ce chemin de transformation pour que la réconciliation soit possible. Mais chemin ordonné, bien ordonné, commence par soi-même.
Merci beaucoup, Père Philippe Dautet.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous recevrons Mathieu Ricard pour parler de l'altruisme. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Très bon dimanche à tous. Oh.